Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Hendrix et Marjolaine Tapin de Connexion TCC. À l'espresso et à l'espresso allongé, Père Laporte amène son sujet, la douance. Notre collaboratrice Catherine Stassin apporte sa chronique, l'anxiété sociale au travail. On commence d'abord en chanson avec Camaro. La chanson s'intitule « Femme like you ». Bienvenue à Folie douce.
Retour à l'équipe de Folie douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale.
J'accueille maintenant mes invités, Charlotte Hendrix. Bonjour, Charlotte.
Bonjour.
Et aussi Marjolaine Tapin. Bonjour, Marjolaine.
Bonjour.
On va parler aujourd'hui de connexion TCC. On va tout savoir ce que ça veut dire, TCC. Marjolaine, vous êtes directrice de justement de connexion TCC. Et Charlotte, vous êtes candidate au doctorat en neuropsychologie à l'Université de Montréal.
Oui, c'est exact.
On va tout apprendre ce que c'est, ça rapport au cerveau. Donc, Marjolaine, comment on peut présenter d'abord ce que c'est, connexion TCC? Qu'est-ce que ça veut dire, TCC, d'abord?
Donc, TCC, ça veut dire traumatisme crânio-cérébral. Connexion TCC, c'est le raccourci pour le regroupement des associations de personnes traumatisées crânio-cérébrales du Québec. On est un organisme communautaire qui existe depuis 25 ans maintenant et qui regroupe 13 associations régionales partout sur l'ensemble du territoire de la province du Québec.
OK. Et comment on peut décrire la mission, en fait, plus largement, là, pourquoi avoir créé cette organisation?
Le regroupement a une mission de soutenir les associations régionales qui apportent du soutien, soit au niveau de l'intégration sociale, du suivi psychosocial, qui apportent du soutien aussi aux personnes proches aidantes, des personnes qui ont subi un accident soudain et qui ont eu un choc à la tête, donc un traumatisme crânio-cérébral. On organise différentes activités à travers le Québec, des campagnes de sensibilisation. On a à chaque année une semaine de sensibilisation au traumatisme crânio-cérébral qui est du 15 au 21 octobre.
Toujours et les mêmes dates, là. Peu
toujours,
importe la journée de la semaine
année,
que ça tombe.
À chaque année du 15 au 21 octobre, il y a des activités de sensibilisation grand public partout dans toutes les régions du Québec et on peut aller voir la programmation sur notre site Internet.
OK. Qu'on va nommer à la fin de l'entretien, effectivement.
Tout à fait. Et puis, donc, le regroupement apporte aussi de l'information, que ce soit sur son site Internet ou la formation des intervenants et intervenantes dans le cadre des formations qu'on organise là, pour les intervenants et intervenantes de partout dans la province. Et également, bien, on va défendre différents dossiers là, provinciaux qui touchent les personnes traumatisées crânio-cérébrales.
Oui, je demanderais à Charlotte maintenant de nous décrire un peu ce que c'est le traumatisme crânio-cérébral. On a probablement une idée de ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est en fait?
Oui, tout à fait. Mais dans le fond, donc, le traumatisme crânio-cérébral ou TCC, je pense qu'on va utiliser beaucoup l'acronyme maintenant, c'est vraiment une lésion ou une blessure à notre cerveau qui survient à cause d'une force externe et qui va altérer le fonctionnement du cerveau. Donc généralement, la première image qui vient en tête à tout le monde, c'est l'écho commotion cérébrale dans le sport. Ça en fait partie, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc le TCC, ça vient vraiment perturber notre fonctionnement cérébral, puis ça peut être à cause de chutes, ça peut être à cause d'accidents de voiture qui font partie des causes les plus fréquentes du TCC. Ça peut être également suite à l'impact d'un objet qui vient frapper la tête ou par exemple un coup de fusil, bref, tout ce qui va venir percuter la boîte crânienne ou la pénétrer carrément et qui va venir créer une lésion cérébrale. Donc, on sait qu'il y a plusieurs niveaux de sévérité du TCC, puis c'est là que c'est quand même important. On va avoir le TCC léger ou la commotion cérébrale, donc c'est-à-dire un choc à la tête, mais qui est moins grave. On n'a pas ou très peu de perte de conscience, puis on se souvient parfois de l'événement, parfois pas, mais ça dure quelques minutes. Généralement, on n'a pas de symptômes qui perdurent dans le temps. Ça peut durer quelques semaines, voire un mois, puis ils sont censés se résorber avec le temps. Donc ça, c'est un peu l'exemple de nos sportifs ou bien recevoir un ballon sur la tête dans la cour de récréation. Après, nous, avec Marjolaine, puis Connexion TCC ainsi que les associations, on va s'intéresser plutôt au TCC qu'on va appeler modéré à grave. Donc là, on parle de personnes qui ont des accidents plus graves, plus sévères. Ça va s'accompagner avec une perte de conscience quand même plus longue également. Donc nous, on a des critères dans le milieu médical pour venir catégoriser ça. Donc on regarde la durée de la perte de conscience. On regarde aussi la durée de l'amnésie lors de l'événement. Donc est-ce qu'on se souvient de l'événement, mais aussi des jours qui précèdent ou qui suivent l'accident. Puis généralement, plus c'est grave, plus l'amnésie est longue. Et là, on va parler donc des accidents de voiture, des chutes chez les personnes âgées, aussi de leur propre hauteur. Chez les enfants aussi, ça va être les chutes, mais on peut aussi retrouver des bagarres dans des populations, par exemple, plus vulnérables comme les personnes en situation d'itinérance.
Est-ce que dans les conséquences, est-ce qu'il y a autant des symptômes physiques que mentaux? Est-ce que les deux sont présents en général?
Tout à fait. Donc, comme je vous dis, dans le TCC léger, la commotion cérébrale, c'est une entité à part entière. Les symptômes vont disparaître dans les semaines qui vont suivre. Dans les TCC modérés à graves, généralement, c'est fréquent d'avoir des séquelles qui vont durer dans le temps. Donc, ce n'est pas juste un accident à un moment T, c'est vraiment une condition qu'on va appeler chronique. C'est des personnes qui vont vivre avec des séquelles tout au long de leur vie. Là, par contre, elles peuvent aller dans tous les sens. Donc, ça peut être en effet des séquelles physiques, par exemple, une partie du corps qui bouge moins bien, des pertes d'équilibre, des étourdissements, ce genre de choses. On ne va pas parler de séquelles mentales, on va plutôt parler de séquelles cognitives, c'est le terme qu'on va utiliser. Donc, par exemple, des problèmes de mémoire, d'attention, d'organisation. On peut aussi avoir la sphère comportementale qui est touchée, donc des gens qui vont être parfois un petit peu plus irritables, plus agressifs, ou au contraire, plus là, plus apathique, on va utiliser ce terme-là, c'est-à-dire plus tendance à moins faire d'activité, moins se mettre en action. Donc, ça peut vraiment créer une ribambelle de séquelles et chaque personne avec un TCC va être tout à fait différente dans les séquelles qu'il va présenter, dépendamment aussi de où la lésion se trouvait dans le cerveau.
Oui. Combien de gens peuvent être touchés? Est-ce qu'on a des statistiques, que ce soit Marjolaine ou Charlotte qui veut répondre?
Bien, la question des statistiques, elle est centrale. Connexion TCC, on aimerait beaucoup qu'il y ait davantage de recherches pour pouvoir documenter le phénomène. Ce qu'on sait dans les dernières études, c'est qu'il y a environ 2000 personnes à chaque année qui vont vivre un accident qui va causer un traumatisme crânio-cérébral modéré ou sévère au Québec.
Ouais, 2000.
Et donc, oui, puis dans ce 2000 personnes-là, bien, on sait que comme on expliquait tout à l'heure, c'est des gens qui vont avoir un accident avec des séquelles qui ne vont pas guérir. Donc, si on dit 2000 par année, bien, c'est quand même plusieurs milliers de personnes au Québec qui peuvent avoir un traumatisme crânio-cérébral et qui vont avoir besoin d'aide. Justement, on a parlé d'intégration sociale. C'est des personnes qui peuvent avoir besoin d'aide au niveau de la vie en appartement. C'est des personnes qui peuvent aussi... après l'accident, ce qui est un peu compliqué, c'est que souvent, la personne va avoir changé de comportement. Puis, c'est difficile de garder des liens amoureux ou des liens d'amitié avec les personnes avec qui on était avant, étant donné que la personne est là changée. Souvent, l'entourage va finir par dire, bien, ce n'est plus mon époux, mon épouse, ce n'est plus l'ami avec qui je me tenais, parce qu'il y a des gens qui changent complètement de... Ils peuvent avoir des qualités qu'elles n'avaient pas avant, mais ils peuvent aussi ne plus les avoir. On va dire ça comme ça. Donc, vraiment, le comportement va être différent.
C'est tellement important, le cerveau, que ça gère beaucoup d'émotions, de traits de caractère, de sortes de choses. Donc, ça change beaucoup d'avoir ça, effectivement. C'est énorme. Pourquoi vous vous êtes intéressés, toutes les deux, peut-être pour des raisons différentes, mais c'est quand même une mission là, de parler du cerveau puis de parler des traumatismes au niveau du cerveau.
Ben, je peux peut-être commencer. Ouais. Moi, dans le cadre de ma profession, donc la neuropsychologie, notre travail, c'est vraiment de venir évaluer les fonctions cognitives chez toute personne, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les causes de ces difficultés-là. Dans mon cas, ce qui m'a vraiment le plus passionnée, mais c'est justement quand on est rattaché le plus proche possible au fonctionnement du cerveau, ce qui est le cas après un traumatisme crânio-cérébral. Nous, en tant que neuropsychologue, on va venir regarder les scans, donc vraiment quand la personne est à l'hôpital, voir où se trouvent les lésions dans le cerveau. On n'est pas médecin, on va pas analyser ça, mais ça va nous guider pour dire, tiens, cette personne-là, ça se peut qu'elle ait des difficultés en langage, en mémoire ou ce genre de choses. Donc, c'est ça qui m'a vraiment intéressée. Mm-hmm. Puis, dans le cadre de ma pratique, par la suite, ben, j'ai réalisé à quel point c'était une trajectoire de vie, le TCC. Et c'est là que, ben, par plusieurs expériences interposées, j'ai rencontré Marjolaine, puis Connexion TCC. Puis, je me suis vraiment liée d'intérêt avec les associations communautaires qui sont, en fait, pas mal les seuls remparts de service, je vous dirais, au long terme pour les personnes qui vivent avec cette condition chronique-là, une fois qu'ils sont sortis du système de santé et qu'ils ont terminé leur réadaptation. Ils se retrouvent seuls à la maison, puis il n'y a pas mal que les assos qui sont là pour les aider dans leur réinsertion socio-communautaire, même socio-professionnelle, quand ils peuvent y avoir accès.
Oui. Dans votre cas, Marjolaine, vous êtes directrice générale de l'organisme. Est-ce que ça fait longtemps et pourquoi vous êtes intéressée par le sujet?
Bien, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis à Connexion TCC Québec. Je vous dirais qu'à chaque jour, j'ai l'impression que j'en apprends davantage. Je trouve que les personnes qui ont vécu un TCC, c'est des personnes qui font preuve d'une résilience énorme. Leur vie a vraiment chamboulé du jour au lendemain. Toute la question de leur famille, de leurs amis aussi a été modifiée. Et moi, ce que je dirais, là, que je trouve vraiment touchant, on dit souvent, le TCC, c'est un handicap invisible. Donc, on voit une personne, on la rencontre, on ne sait pas que cette personne-là a eu un coup à la tête. Il y a des personnes qui peuvent avoir des cicatrices ou qui peuvent avoir des symptômes physiques, mais des fois, on ne le sait pas pourquoi, parce que c'est pas écrit pris dans leur front qu'elles ont eu un accident. Souvent, la société va être portée à juger ces personnes-là. Quelqu'un qui a des troubles d'élocution ou des troubles d'équilibre, on va penser tout de suite que c'est une personne qui est en état d'ébriété, alors que c'est pas le cas. Les personnes TCC nous rapportent souvent que lorsqu'elles ont des orthèses, des béquilles,
Quelque chose de visible.
Un signe visuel. Ouais, elles sont mieux traitées que lorsque... Par exemple, il y en a qui utilisent le transport adapté puis qui peuvent être confus, ne pas aller au bon arrêt, puis ils vont vivre des difficultés comme si elles étaient bornées, comme si elles ne comprenaient pas les consignes. Puis souvent, c'est ça qui va être rapporté aussi. Je lui ai dit, et il ne m'a pas écouté. Mais les gens ont des troubles de mémoire. C'est ça. C'est pas de la mauvaise volonté, vraiment pas.
Qu'est-ce qui est mal compris encore au sujet justement de ces troubles
du TCC?
Oui. Ouais.
Ben, je pense qu'on pourrait dire beaucoup de choses, mais si on résume, je pense que ce qui est encore mal compris, malgré le fait que dans la communauté scientifique, au niveau de la santé publique et au niveau de santé tout court, on se bat pour le faire reconnaître, c'est que c'est une condition chronique. C'est pas juste un accident à un moment T dans la vie de quelqu'un. Et donc ça fait comprendre aussi que, en fait, c'est un problème mondial de santé publique, le TCC, parce qu'il faut comprendre que c'est une des principales causes de décès et d'invalidité chez les jeunes au niveau mondial. Donc, ça va être connecté à plein d'enjeux de santé publique comme l'itinérance, l'incarcération, parce que comme a dit Marjolaine, à partir du moment où ces personnes-là perdent leur réseau de soutien, bien, quand ils ne savent plus fonctionner par eux-mêmes sans leur réseau de soutien, bien, ils s'en vont vers ces problématiques-là. Donc ça, c'est la première chose pour moi qui est le plus mal comprise, puis on se bat beaucoup pour ça, parce que évidemment, vous comprenez que ça en découlera de financement, de reconnaissance, de soutien et d'aide au-delà du système de santé. Puis l'autre élément, bien, on l'a déjà nommé, c'est le handicap invisible.
Ça, c'est toujours un grand préjugé. Les gens, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, les gens qui ont un problème physique, bon, il y a plus d'empathie, il y a plus de gens qui vont se porter à l'aide là, de ces gens-là, de ces personnes-là.
Puis il ne faut pas se méprendre. Ils vivent évidemment toutes leurs séquelles, toutes leurs difficultés au quotidien.
Absolument.
Mais c'est sûr que ça donne un petit cue, un petit indice visible pour les autres personnes autour de comprendre qu'il y a une situation de handicap.
Oui, avant de terminer, il reste encore presque une minute, mais j'aimerais ça qu'on mentionne les coordonnées, puis entre autres pour savoir les infos sur la semaine spéciale, mais sur toutes vos activités, puis votre mission, puis comment vous contacter, puis voir les différents groupes à travers la province.
Oui, exactement.
Qu'est-ce qu'on cherche? Comme,
donc, sur le site Internet, qui est au www.connexion.tccqc.ca. On peut retrouver la liste des associations régionales présentes dans 16 régions administratives du Québec et on peut retrouver toute l'information sur la semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral du 15 au 21 octobre.
À toutes les années. Marquez ça dans votre calendrier, à toutes les années du 15 au 21. On peut être mieux informé sur le sujet puis probablement participer à des activités, là.
Ainsi que de l'information sur le TCC, les études les plus récentes sont sur notre site Internet.
Donc, on parlait donc du TCC, le traumatisme crânio-cérébral. Merci beaucoup, Marjolaine Tapin, directrice générale de cette organisation. Et merci beaucoup, Charlotte Hendrix, de l'Université de Montréal, étudiante au doctorat en neuropsychologie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.
Merci
de l'invitation.
Au revoir. On a pris des chemins coulants entre la trêve.
Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio.
C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, tu poursuis le sujet entamé à la dernière émission, la douance.
La douance, oui, qui est un mot peut-être un peu obscur pour plusieurs personnes. C'est en fait, on parle ici des enfants, en fait pas seulement que des enfants, mais ceux qui sont surdoués. Et à quel point ça peut être difficile pour eux, peut-être encore plus pendant l'enfance à l'école, car ces jeunes-là peuvent se sentir souvent isolés.
Et la dernière fois, tu disais qu'au secondaire, des fois, ça peut se dégrader. Là, ouais. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui sont un peu, qui se sentent un peu, pas abandonnées. Mais, ils ne se sentent pas bien.
Un peu, oui.
C'est ça. Fait que c'est important.
Alors, c'est pas toujours facile. Ouais.
Non.
Alors, c'est d'après un article qui s'intitule « Gérer la douance ». C'est un article qui nous a été envoyé par notre ancienne chroniqueuse, Ève Cardinal, et on la salue en passant. Alors, c'était sur le site Acu Douance. Et c'est un article écrit par la docteure Marianne Bélanger, qui est psychologue et neuropsychologue. Alors, la docteure Bélanger nous dit « La douance est encore très tabou au Québec. Nous sommes plus de 10 ans en retard sur la France et aussi plusieurs années en retard sur d'autres provinces du Canada à l'égard de notre acceptation, de notre compréhension et de notre soutien aux jeunes à haut potentiel intellectuel, comme on dit simplement HP. » Et pourquoi? Plusieurs hypothèses sont possibles. La première hypothèse repose sur nos racines gréco-chrétiennes qui survalorisent l'humilité en associant la honte à la richesse et en donnant naissance au mythe historique des Québécois nés pour un petit pain. Conséquence, si vous annoncez à vos proches que votre enfant a une déficience intellectuelle, vous recevrez, on l'espère, de la compassion. Mais ceux qui annoncent une douance reçoivent souvent un air de condescendance, une écoute bienveillante mais mêlée d'un certain mépris pour leur affirmation que leur enfant est plus intelligent.
Et la première réaction, c'est de dire, il n'y aura pas de problème, il est intelligent, alors que c'est pas ça que tu nous racontes.
Oui, exactement, oui.
C'est ça.
Alors, on nous dit, imaginez les parents qui doivent en parler à l'école ou à leurs proches. Même certains psychologues peu sensibilisés risquent de ne pas les comprendre entièrement. Deuxième hypothèse, nous dit la docteure Bélanger, l'argent. Imaginez ce que pourrait coûter la reconnaissance et la prise en charge par le système public des besoins particuliers d'un autre 2 à 5 % de sa population. La logique pourrait rendre certains groupes moins enclins à promouvoir la recherche sur le sujet. Chose certaine, sachez que le débat ne date pas d'hier dans les commissions scolaires québécoises. D'un côté, les défenseurs des besoins particuliers des élèves HP et de l'autre, ceux qui craignent l'élitisme et l'inégalité. Le combat est parfois sanglant, croyez-moi, nous dit la docteure Bélanger. À ce jour, seule la commission scolaire Marguerite Bourgeois s'est dotée d'une politique des élèves surdoués et talentueux, et ce depuis 2011. À la commission scolaire de Montréal, une école primaire, soit celle qui s'appelle Fernand Séguin, offre un programme particulier en sciences. C'est un début, surtout pour les élèves HP, qui ont un profil homogène et qui sont plutôt intellectuels. Toutefois, nous sommes encore très loin de répondre aux besoins des élèves à haut potentiel hétérogène avec des troubles associés. Ceux qui vivent des difficultés scolaires, qui abandonnent l'école et sont plus mésadaptés avec tous les coûts collatéraux pour eux-mêmes et pour la société. Comprendre d'où on vient peut nous permettre de comprendre où on va. La suite, nous l'avons tous entre nos mains. Sensibiliser à la douance nos proches, nos écoles, nos intervenants, les médecins, les psychologues, les travailleurs sociaux et autres, et nos décideurs, les décideurs scolaires, administratifs et politiques, en tentant de nous adapter tous ensemble. Maintenant, l'adaptation au phénomène des enfants HP. En tant que société. Eh bien, l'adaptation est un processus naturel chez tous les humains qui permet de se protéger de la désorganisation provoquée par quelque chose de nouveau qui est perçu comme menaçant. Beaucoup d'auteurs décrivent un processus d'adaptation qui comprend 5 étapes. Premièrement, il y a le choc. Plusieurs personnes ne savaient sincèrement pas que les enfants et les adultes HP pouvaient souffrir et être handicapés dans leur fonctionnement. En fait, le choc est là. On peut y réagir de façon très différente les uns des autres. Vous pourriez, par exemple, être révolté de la situation, inquiet, attristé ou encore indifférent. Deuxièmement, il y a le déni ou la banalisation. On entend souvent « avoir un haut potentiel, ça doit être bon dans la vie ». Les enfants doués fonctionnent comme les autres, ou mieux, certains pourraient croire qu'il n'y a pas d'enfants doués dans leur entourage. Troisièmement, il y a l'impuissance ou la détresse. On entend souvent « je pense que j'ai peut-être un jeune doué dans ma classe, qu'est-ce que je fais maintenant ?»
On va poursuivre de toute façon plus tard à l'émission. L'Espresso allongé, le même sujet, alors on demeurait des nôtres. À venir à Folie douce, Catherine Stassin propose sa chronique « L'anxiété sociale au travail ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte continue avec « La douance ». Vous entendrez aussi en chanson « Donne-moi ton cœur » de Louane et « Partout » de Roxane Bruno. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à nos productions? Notre site web est antenne@qc.ca. Utilisateurs des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. De retour au micro dans quelques instants.
Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les.
J'accueille maintenant notre collaboratrice, Catherine Stassin. Bonjour, Catherine.
Bonjour, Yvon.
Alors, aujourd'hui, ton sujet, l'anxiété sociale au travail.
Oui, qui n'a pas entendu parler de ce sujet. Et
en société,
qu'est-ce que ça te dit,
en général, oui, l'anxiété sociale en général, mais au travail, j'ai jamais entendu ça.
Au travail, c'est quand même particulier, hein, mais en tout cas, on a tous plus ou moins vécu un épisode où on doit parler devant des collègues, où on doit faire quelque chose d'un peu plus, où on n'est plus mis en évidence, et là, on peut avoir un malaise ou un trac.
Oui.
Bon, évidemment, là, c'est pas du niveau d'un trouble. Ça devient du niveau d'un trouble quand ça devient récurrent et que ça handicape une carrière. D'accord ? Mais par quoi ça se traduit ? Et ça se traduit, les gens qui ont ça de manière récurrente et qui handicapante, ça se traduit par des rougissements, mais cela dit, quelqu'un qui est timide peut très bien rougir parce qu'il doit faire un discours et il n'a pas d'anxiété sociale au travail. Hein. On comprend, il faut bien dissocier les éléments ici, mais ça peut comprendre en effet du rougissement, de la grande transpiration et à l'inverse, avoir la gorge très sèche où des fois les gens peuvent avoir une impression qu'ils étouffent, qu'ils ont difficile à respirer, comme une crise de panique. Dans le fond, ils peuvent avoir une douleur à la poitrine, donc mal à respirer, accélération du rythme cardiaque, tremblement, etc. Donc, en effet, tous des symptômes de crise de panique, des chauds froids, des maux de tête. Chacun peut avoir des symptômes un peu différents. Mais quand ça vous affecte de manière régulière et de telle manière que vous allez en perdre le sommeil ou que vous allez mettre un frein à votre carrière pour des tas de raisons, parce que oui, tout le monde n'est pas obligé de parler en public, mais il y a des tas d'autres actions qu'on doit faire. Dans une réunion, on doit prendre la parole, on doit intervenir, on doit affirmer des faits. Mais ça, c'est toutes des actions qui sont très difficiles pour les personnes souffrant d'anxiété sociale au travail. Ce n'est pas du tout une question d'intelligence.
Et c'est bien sûr, il y a de plus en plus d'emplois, on dirait col blanc, là, je pense. Donc, les gens ont souvent une occasion, beaucoup plus qu'avant, là, de prendre la parole, comme tu dis, dans les réunions, tout ça.
Oui, on vous met autour d'une table pour un tas de raisons, ces temps-ci, c'est certain. Et les gens vont avoir, comment on peut expliquer, comment toi, tu vas remarquer qu'il y a peut-être un problème, comment se manifestent ces éléments, dans le fond, comment on peut remarquer pour... si on est touché par ça, ou chez un collègue, et lui venir à l'aide éventuellement, c'est que ces personnes vont constamment avoir peur d'être jugées. Elles auront peur d'être critiquées, d'être observées, elles auront peur des présentations, mais de toutes sortes, des réunions, des interactions beaucoup moins faciles. Aller à la machine à café, elles sont beaucoup moins présentes. Les lunchs, beaucoup moins présentes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme tout ce qui est événement ou interaction sociale au sein d'une entreprise, ces personnes vont se mettre un petit peu en retrait. Donc, elles vont de là avoir des difficultés aussi relationnelles, même si ces difficultés relationnelles peuvent aussi être la source de ce problème. D'accord? Donc, on s'entend qu'à ce moment-là, c'est difficile d'entretenir des liens, difficile de se faire connaître, difficile de faire connaître son travail, ses valeurs, ses forces. D'accord? Les gens vont, pour finir, un petit peu juste définir la personne par le fait qu'elle soit une sorte de courant d'air, peut-être, ou un petit peu...
Peut-être une personne remplie de qualités.
Tout à fait,
mais
certainement.
Elle les vend pas, entre guillemets, les vend.
Exactement. Tout le monde ne sait pas se vendre non plus. Ouais. Et encore moins quand on a... qu'on souffre d'anxiété sociale au travail, c'est sûr qu'on va plutôt être en repli sur soi. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas réussir à faire ça. Il faut savoir qu'au Canada, il y a de 8 à 13% de personnes qui sont atteintes de ça en milieu de travail.
Okay.
C'est quand même un gros pourcentage. Quand on pense, presque une personne sur 10 à des niveaux différents. Mais c'est intéressant, donc, de peut-être le déceler quelque part et de pouvoir dire, de venir en aide. Et je vais expliquer comment est-ce qu'on peut faire, dans le fond, pour aider une personne qu'on décèlerait, qu'on soit quelqu'un des ressources humaines ou un simple collègue. Et quand je continue sur les manifestations, les symptômes, dans le fond, qu'est-ce qu'on va voir aussi, c'est qu'il y a des personnes qui vont, là c'est vraiment un petit peu l'extrême, éviter le contact visuel. Il y a des personnes qui ne vont pas réussir au travail à jamais tenir le contact visuel avec une personne. Alors imaginez comment faire valoir son point de vue.
Et on sait que c'est important. Quand on fait un contact visuel, il y a une communication qui se passe.
Et au moins, si vous avez le contact visuel, mais que vous parlez différemment... peut-être moins et vous envoyez des courriels bien structurés ou bien parlants. Mais si vous avez tout qui s'additionne, c'est-à-dire pas de contact visuel, pas d'assertivité du point de vue, pas de défense de son point de vue, etc., ça s'accumule un petit peu. Et puis, à la limite, vous pouvez peut-être passer pour quelqu'un de désintéressé ou de pas motivé. Ce serait possible, d'accord ? Donc, c'est des gens aussi qui ne vont, vont pas fréquenter la cafétéria de manière très, très rigoureuse. Ils n'aiment pas trop ça. Et alors, on voit que c'est un frein. Hein. C'est un frein parce que, comme tu as dit, de nos jours, les entreprises, elles ont des exigences et elles vont demander qu'on fasse ne fût-ce que des évaluations régulières tous les 6 mois. Et si à ce moment-là, vous n'exprimez pas non plus ou vous contrecarrez pas une remarque, parce que ça peut être pertinent de dire « Oh, vous percevez ça comme ça, mais dans le fond, moi, je vous dis que j'ai vécu telle et telle chose avec mon collègue et donc maintenant, ce serait bien que vous ayez l'autre côté de la médaille. » D'accord ? Donc, ce serait vraiment intéressant d'oser s'exprimer. Et donc, ces personnes vont aussi donc refuser les promotions de peur d'être mis en avant, toujours de peur d'avoir un nouvel entretien d'embauche, de nouvelles évaluations, parce que c'est classique, maintenant, on passe d'évaluation en évaluation.
Et annuellement aussi, je pense, ça se fait encore, là, des évaluations
automatiques
qui sont plus ou moins des fois valables.
Exactement, elles valent ce qu'elles valent. Moi, j'ai entendu récemment aussi que, dans le fond, même quand c'était quelque chose de très bien, on ne mettait pas les points au maximum parce que, dans le fond, on avait dit à cette personne que mettre trop de points, ça peut peut-être donner un signe que d'autres ne vont pas aimer. Hein, donc, ce sera 5 sur 5 et puis les collègues vont entendre et du coup, c'est pas possible, 5 sur 5... Tu ne peux pas déclencher de la jalousie ou montrer que tu es trop généreux, alors que c'était du très bon travail.
En fait.
Donc, ils vont plutôt essayer, pour ne pas avoir d'ennui, de faire du 3,5 sur 5
un peu partout. Donc, finalement, ça vaut un peu ce que
qu'est-ce
ça vaut.
Qu'est-ce que ça vaut?
Qu'est-ce que ça vaut finalement?
Est-ce que aussi les personnes soumises à ça osent toujours répondre? Enfin, ça, c'est une autre question. On pourra en parler une autre fois.
Ouais. Puis, tu sais, dans les évaluations, souvent, il y a l'évaluation aussi, ben, je ne sais pas si ça se fait aussi dans chaque bureau, mais des employés envers les patrons. Puis là, les employés ne veulent pas nécessairement se mettre les patrons à dos. Fait que, en réalité, ces évaluations-là, ça vaut ce que ça vaut, comme on dit, là, dans les deux sens. Là,
Oui, c'est ça. Si c'est extrêmement anonyme, fait par un sondage... Oui,
mais ça ne l'est pas vraiment, ce que j'en ai connu dans le passé.
Si c'est à la main, on reconnaît l'écriture, le stylo et tout.
Oui, si on se nomme, c'est encore pire.
Et donc, c'est vrai que ce serait un moment de dire les choses, mais ce n'est pas toujours évident de le dire.
Et comme tu dis, ça, les gens ne veulent pas nécessairement avoir de promotion, tu vois, parce qu'ils vont sentir qu'ils vont avoir une anxiété qui va arriver, là, ces personnes-là dont tu parles. Là,
voilà, parce qu'ils devraient encore plus défendre leur point de vue. Ben, on monte dans la hiérarchie, on a des comptes à rendre, encore plus, etc. Et ça les paralyse, ça les rend trop anxieux, de manière maladive, hein, perte de sommeil, etc. également. Ce qu'on voit, donc, ces personnes vont... maintenant, ce que vous pouvez essayer de faire, là, voilà ce où je voulais en venir, c'est que vous pouvez simplement, si vous êtes au RH ou un collègue amical, un petit peu discuter et vous dire, dans le fond, si c'est possible, est-ce qu'il y a moyen d'aménager un bureau? Parce que maintenant, c'est la grande mode des open space.
Oui, mais depuis toujours.
Espace ouvert.
Oui, mais depuis toujours, les bureaux avec des fameux cubicules que je déteste pour mourir. Là, mais...
Bon, voilà, on entend tout, on ne sait pas se concentrer. Enfin, bon, tout le monde connaît
c'est
ça.
C'est moins cher aussi, là, faut dire.
Ça doit être moins cher.
On met quatre bureaux dans un espace d'un bureau.
Et puis une connexion avec plein de fils.
C'est ça, exactement.
Donc c'est moins cher, tu as raison.
Avec ouvert.
Et donc, eh bien, pour quelqu'un qui souffre d'anxiété sociale au travail, c'est très anxiogène.
Oui.
Comme milieu. Parce que la personne perçoit qu'elle est regardée.
Ouais.
C'est pas de la paranoïa, hein, mais elle n'est pas à l'aise avec le regard des
souvent
autres.
De dos. Fait que les gens arrivent derrière. C'est tout pour ajouter. Là.
Et comme par hasard,
tu regardes une recette.
La fois que tu regardes Facebook
ou tu regardes
de
une
toute
recette,
la journée.
C'est ça.
C'est ça.
Et
ça
j'ai déjà entendu un grand patron bien connu au Québec, que je nommerai pas, mais il avait dit « c'est convivial ». Il disait « c'est convivial ». En tout cas, pour lui, c'est facile à parler. Il y avait probablement un bureau fermé. Mais...
C'est ça. Exactement. Il devait avoir un bureau fermé.
Mais lui,
il trouvait
ça convivial.
Et donc, aussi en montant, la personne va aussi être, comme je l'ai dit, comparée. Il y aura plus de concurrence et donc ce sera encore plus tendu pour elle. Ce qui peut augmenter aussi cette anxiété, c'est si à la base, en plus, la personne a un problème de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Mais c'est souvent pour ça, mais pas uniquement comme raison, qu'on peut arriver dans un tel état d'anxiété sociale au travail. Donc, ce qu'il y a comme bonne nouvelle, c'est que oui, c'est invalidant, c'est handicapant, ça prend beaucoup de place, mais il y a des solutions. Il y a des stratégies, il y a des thérapies. Pour ça, il faut commencer juste par se dire, je reconnais que j'ai un gros problème.
Ouais.
Je connais et je vais consulter. Donc, je vais consulter et en choisissant un thérapeute, on peut prendre la thérapie d'exposition, ça les gens connaissent assez bien en général, c'est-à-dire qu'on va de manière progressive se familiariser avec des situations d'exposition aux autres, à des collègues, à la hiérarchie. On va commencer juste par donner une opinion de 30 secondes à une réunion. Et puis, dans le fond, j'ai survécu.
Genre de mise en situation qu'on va faire, là, ouais.
Mais on va préparer des mises en situation, on va peut-être répéter avec le thérapeute, on va discuter de ça, comment on peut se préparer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie d'exposition. Il faut ajouter à ça aussi, idéalement, de la relaxation, pleine conscience, prendre bien conscience de nos peurs et savoir qu'à ce moment-là, ne pas partir en hamster et tout de suite essayer de prendre une respiration, de méditer avant la réunion ou de prendre des grandes respirations à la réunion si vous avez ce problème. Et donc vraiment, ça, il y a moyen de faire des gros progrès assez rapidement avec ce problème. Donc vraiment, allez consulter. Si c'est handicapant, je ne dis pas si vous êtes de nature timide, bon, ben, vous vivez avec, il y a toutes sortes de natures. Mais si vraiment c'est quelque chose qui vous handicap dans votre vie professionnelle, allez-y, consultez et surtout alors, arrêtez de penser à la place des autres. En fait, je vais donner des petits exemples où on pense des fois que, je suis à la machine à la café, je discute et puis la personne regarde sa montre. Ouais, elle m'aime pas, elle pense qu'à partir ou quoi. Mais c'est peut-être juste la personne à une réunion, elle n'a pas le temps de formaliser, de verbaliser, elle va juste regarder sa montre, mais elle est intéressée par ce que vous dites.
Bon, oui.
C'est pas toujours vous... qui est le sujet et le problème, en fait, ou le fait que vous estimez pas assez, ben les autres peuvent trouver ça très intéressant, les autres peuvent apprendre à vous connaître. Laissez-vous approcher par les autres et allez aussi connaître des collègues. Il est jamais trop tard pour aller à la cafétéria, pour aller à la machine à café à nouveau. Commencez par des toutes petites choses. Ou mieux dire bonjour avec un contact visuel le matin. Juste commencer par ça, établir des contacts visuels et puis se mettre des étapes avec un thérapeute. Après le contact, qu'est-ce qu'il y a d'autre, etc. Ouais, donc, il y a vraiment des solutions.
Merci, Catherine. Donc, sur l'anxiété sociale au travail, on va mettre quelques références sur notre site web antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie douce. Merci, Catherine, et à la prochaine.
Merci, Yvon. Au revoir.
Donne-moi ton cœur, ta main et le reste. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs, chagrin et le reste. Dis-moi qui tu es, qui tu es. J'imagine un monde céleste. Où personne ne sort, non, où personne ne reste. J'imagine un cri, des cris dans la nuit. J'imagine tellement de choses de toi. C'est peut-être toi que je suis des fois. J'imagine un nid de récits, de mots tristes. J'imagine un lit, une insomnie complice. J'imagine une moi qui se noie dans tes vices. Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse. J'imagine un homme, une femme, une nourrice. Qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques. Un gros tintamarre dans mon âme novice. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. Je veux revoir le monde de l'autre fois. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir l'ombre de l'autre toi. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir le monde de l'autre fois. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir en toi tout ce que je suis pas. Dis-moi qui tu es, mais surtout s'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es.
Que vous soyez au boulot, dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce.
Continuons à l'émission avec le segment Espresso allongé. Alors Pierre, le sujet que tu as entamé dans cette émission et que tu avais entamé également dans l'émission précédente, la douance,
oui.
Que tu vas compléter avec ce segment.
Oui, alors c'était écrit par, l'article en fait s'appelle « Gérer la douance », écrit par la docteure Marianne Bélanger qui est psychologue et neuropsychologue. Et celle-ci nous disait que en tant que société, on doit s'adapter au phénomène des enfants HP. Et elle nous disait que le processus d'adaptation à n'importe quel changement, finalement, se fait en 5 étapes. Et j'étais rendu au quatrième processus d'adaptation qui s'appelle le détachement, ou le temps qui passe. Elle nous dit « Il n'y a pas de miracle, il faut se laisser du temps pour s'informer et cheminer ». Pour obtenir des réponses et s'outiller, ainsi que pour évoluer comme individu et comme société. Et finalement, il y a ce qu'on appelle l'acceptation. Finalement, il faut accepter véritablement et s'adapter au changement. Maintenant, comment dépister les personnes surdouées? Chez les enfants, il y a plusieurs auteurs et spécialistes en douance qui ont tenté de dresser un portrait des enfants surdoués. Le site ou l'organisme Haut Potentiel Québec dresse le portrait suivant. D'abord, sur le plan intellectuel, ils ont une grande curiosité, les pourquoi sous toutes les formes. Ils ont une grande capacité d'attention sur les sujets qui l'intéressent. Ensuite, un vocabulaire élaboré et structuré, voire précoce dès le plus jeune âge. Ce sont des enfants qui n'ont pas ou très peu parlé étant bébés. Étonnamment, je dirais. Il y a aussi un intérêt pour les jeux compliqués, l'envie d'apprendre à lire avant l'âge habituel, un grand intérêt pour les lectures encyclopédiques, un grand intérêt pour les questions métaphysiques qui parlent de la vie, de la mort, de la création de l'univers, des origines. Il y a aussi un changement rapide des champs d'intérêt dès qu'ils sont maîtrisés. Il y a aussi une grande mémoire, un grand sens de l'observation et du détail, une pensée créatrice et divergente qui peut générer un manque d'organisation. Sur le plan affectif maintenant, ces personnes ont eu une très grande sensibilité émotionnelle face à l'injustice, les reproches et l'échec. Une tendance à la négociation due, entre autres, à un profond besoin d'équité. On a l'impression que ces gens-là vont peut-être aller en politique plus tard.
Ou s'impliquer de façon sociale. Oui. Il y en a certainement beaucoup qui sont de cette personnalité-là. Hein.
Oui, et ces gens ont ce qu'on appelle une hyperesthésie des sens. Visuelle, auditive, olfactive, entre autres. Ils ont un besoin de sommeil inférieur à la moyenne. Ils ont un très grand sens de l'humour, une grande empathie, un peu comme tu le disais tantôt, des peurs non conventionnelles pour leur âge, comme la peur de la mort vers 3 ans ou peur de la fin du monde, car le soleil explosera un jour. Une préférence pour lier des amitiés avec des enfants plus âgés ou des adultes. Un besoin énorme de stabilité affective, une faible tolérance à l'autorité brute. Ces enfants demanderont sans arrêt la justification d'une règle, surtout s'il n'y en a aucun sens à leurs yeux. Ils ont un esprit critique très développé, un perfectionnisme qui amène le doute, la peur de l'échec ou la procrastination.
Donc, c'est un avantage d'être doué, mais ça vient avec beaucoup d'enjeux puis de difficultés. Hein? Il faut les gérer.
Oui. Et sur le plan scolaire, ils ont une grande capacité et une rapidité d'apprentissage. Comme le besoin de répétition est faible chez eux ou inexistant, ils ont de possibles difficultés en calligraphie, c'est-à-dire l'écriture, et surtout chez les garçons. Ils ont une forte résistance à l'apprentissage dit « le par cœur ». Ils ont un ennui, une rêverie ou une agitation qui peut être confondue parfois avec le fameux TDAH, alors que l'attention est présente. Ils ont des résultats en dents de scie en fonction des matières et des enseignants liés à l'affectif. Ils ont une excellente expression orale pour un écrit parfois catastrophique. C'est un peu bizarre.
Ouais.
Ils ont une absence apparente de méthodologie. C'est peut-être un peu comme, tu sais, Albert Einstein, des fois, qui paraît, sur film, on le voit qu'il paraissait un peu désorganisé.
Pas en ordre, mais il est très brillant et très intelligent, c'est ça, ouais.
Oui, on dit que ces enfants préfèrent utiliser leur méthode par rapport aux méthodes scolaires et auront besoin d'aide sur ce point. Et en finissant, eh bien, on nous dit, bien sûr, chaque enfant est unique. Il ne présente pas toutes ses caractéristiques. Par ailleurs, il existe énormément de différences entre chaque enfant surdoué.
Oui, c'est ça. Encore une fois, c'est pas un seul modèle. Là.
Non. Et dans un autre article qui s'appelle « Comment aider les élèves surdoués à être plus heureux à l'école », c'est écrit par M. Raphaël Lapointe, qui est étudiant au baccalauréat en sociologie et en psychologie à l'UQAM. Il nous dit, premièrement, il faut l'approfondissement, c'est-à-dire augmenter la qualité. Cette première mesure d'adaptation pédagogique a pour but de fournir aux élèves HP une éducation plus approfondie que l'éducation régulière, en allant plus loin dans la matière vue en classe. Cette méthode permet à l'élève de mieux maîtriser les différentes matières vues en classe. Et je vais sauter immédiatement Yvan, à la fin de l'article, parce qu'on nous dit que vous pouvez remplir directement un inventaire de dépistage sur le site Haut Potentiel Québec, qui peut être utilisé pour identifier les enfants surdoués qui ont des difficultés scolaires. Les résultats apparaissent lorsque vous avez répondu aux 21 questions. Mais attention, ce test ne sert qu'au dépistage et n'a aucune valeur diagnostique.
On mettra le lien officiellement dans notre site web, oui, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folidus. Merci beaucoup, Pierre, pour ce vaste sujet, la douance sur deux émissions. Merci pour tout ça.
Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Avant de terminer ce rendez-vous, Pierre, on va nommer les chansons qu'on a entendues aujourd'hui.
Ouais.
La première, Femme Like You.
De Camaro.
On a entendu Échapper à la nuit.
De Les Sœurs Boulay.
Dans la deuxième partie de l'émission, Donne-moi ton cœur.
De Louane.
Et à l'instant, Partout.
De Roxane Bruno.
Merci beaucoup pour ce choix musical ainsi que pour ton travail en régie.
Ben, bienvenue, mon cher.
Et merci aussi d'avoir complété ton sujet en deux segments là, sur la douance qu'on avait amorcé la semaine passée. On a appris beaucoup de choses, puis on se rend compte que c'est... On a encore beaucoup à apprendre et à s'intéresser au sujet. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Nos invités plus tôt dans l'émission, Charlotte Hendrix et Marjolaine Tapin étaient des nôtres et nous ont présenté Connexion TCC. Et notre collaboratrice Catherine Stassin était aussi des nôtres pour sa chronique L'anxiété sociale au travail. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir. We'll be right back.